Bonjour, en cette fin d'octobre, le 23 octobre, nous avons plusieurs saints, mais j'ai fait un choix, non pas seulement chez des saints, j'ai choisi Saint-Jean de Capistran, évidemment, c'est sa fête aujourd'hui. Il était fêté autrefois le 28 mars, et il a été déplacé, heureusement, au jour de sa naissance au ciel, c'est-à-dire de sa mort, si vous préférez, le 23 octobre, puisque il est bien mort au 16e siècle, c'est-à-dire au 15e siècle, en 1456, il y a très longtemps, comme vous voyez, mais c'est un très grand saint, car il est une des gloires, vraiment, des franciscains du 15e siècle. C'est aussi la fête d'un frère. Nous avons eu, la semaine dernière, une magnifique entrevue avec le provincial des frères des écoles chrétiennes, durant 2 heures, en après-midi, avec Gilbert Charron. Et il a répondu au téléphone ici de façon très, très intelligente. Quel frère admirable que ce provincial des frères des écoles chrétiennes. Et aujourd'hui, mais c'est la fête du bienheureux Arnoux, le frère Arnoux. Vraiment quelqu'un de très intéressant qui a vécu en Champagne, à Reims. Et aussi, bien, c'est l'anniversaire du décès d'un théologien protestant que j'estime au plus haut point, Paul Tillich, qui est mort en 1965, et que j'aime beaucoup pour 2 ouvrages en particulier que j'ai lus de lui, L'Éternel maintenant, qui est un livre absolument magistral. C'est pas facile à lire, mais c'est très très beau. C'est pas si difficile non plus. Et l'autre, c'est La dimension oubliée. Cette dimension oubliée, n'est-ce pas? De nos jours, dans cette époque plutôt matérialiste et un peu stupide, et même très stupide souvent, mais la dimension oubliée demeure toujours là, elle est présente, elle est essentielle à l'homme. Alors je commence donc avec Saint Jean de Capistran, ou San Giovanni da Capistrano. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous ai dit que Jean de Capistran a été l'un des franciscains les plus importants du 15e siècle. Il demeure l'un des franciscains les plus importants de tous les temps. Il est né en juin, le 24 juin, le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste, en 1386 à Capistrano. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Jean de Capistran, évidemment. Non loin d'Aquila, au royaume de Naples, dans le sud de l'Italie, donc. Et son père, qui était un Français, un seigneur français, probablement né dans l'Anjou, puisqu'il avait suivi Louis d'Anjou dans l'expédition que Louis avait faite pour conquérir le royaume de Naples. Alors, le père de Jean de Capistran s'était donc fixé justement à Capistrano, après avoir épousé dans cette ville une jeune fille d'esprit très religieux. Et Jean de Capistran a perdu son père très jeune. Sa mère s'en est occupée remarquablement pour lui enseigner les bases des connaissances, disons, scolaires aujourd'hui. Puis elle a été envoyée finalement à Pérouse, où pendant 10 ans, il a étudié avec très grand succès le droit civil, puis le droit canonique, le droit de l'Église, hein, les lois de l'Église. Et il avait une très grande capacité pour apprendre. Il avait un jugement très sûr. Et puis, il est devenu très rapidement l'un des membres, dirait-on, du barreau aujourd'hui, et même l'un des juges les plus appréciés, et même le plus apprécié. Ses maîtres qui l'avaient formé recouraient d'ailleurs à ses lumières quand il y avait des problèmes très graves. Et le roi de Naples, Ladislas, a nommé Jean de Capistran gouverneur de Pérouse en 1412. Et dès le début, Jean de Capistran a montré qu'il était à la hauteur d'une telle mission. Et profondément croyant, ça lui venait, comme je vous ai dit tout à l'heure, de sa mère, eh bien, il a soutenu les pauvres. Sa religion n'était pas que verticale, elle était aussi horizontale. Elle formait vraiment cette croix qu'il a la base de la pensée justement de Paul Tillich, dont j'espère vous parler tout à l'heure. Et c'est très important, on le sait tous de toute façon, mais ce théologien protestant, Paul Tillich, l'a traité de façon magistrale dans ses ouvrages. Et alors donc, Jean de Capistran a soutenu les pauvres, les gens du peuple, il a traité sévèrement tous ceux qui manquaient aux lois de façon grave, là. Et il était un juge intègre, mais incorruptible, vraiment incorruptible, comme certains des juges, justement, du sud de l'Italie, qui se sont fait tuer au cours des dernières années par la mafia, hein. Des juges vraiment incorruptibles. Alors, indigné de ce qu'un seigneur ait tenté de le payer, de le soudoyer, pour obtenir de lui, de Jean de Capistran, comme juge, une sentence de mort contre l'un des ennemis de ce seigneur, eh bien, Jean de Capistran étudie vraiment le cas. Et puis, il s'est aperçu de l'innocence de l'accusé, il l'a remis en liberté en dépit des menaces du seigneur. Et Jean allait se marier avec la fille d'un habitant très riche de Pérouse, quand il a été appelé à une tâche très importante, c'est-à-dire de négocier la paix entre les villes de Pérouse et de Rimini, car les villes avaient des princes et se battaient les unes contre les autres dans l'Italie de cette époque. Alors il a été trahi et enfermé à Rimini, dans une tour, ce juge Jean de Capistran. Il était enfermé dans la tour avec les fers aux pieds, dans une tentative d'évasion le long de la muraille extérieure, mais il est tombé à terre, il s'est brisé le pied. Et là, les gardes s'en sont emparés, ils l'ont jeté dans un cachot souterrain. Il a été livré à lui-même, à des réflexions. Ça rappelle encore Saint-Ignace de Loyola, n'est-ce pas, qui avait été blessé à la jambe, et qui, alors qu'il essayait de recouvrir un peu la santé et l'usage de sa jambe, il s'est mis à réfléchir, à faire lire des médecins, bien lui, Jean de Capistran, s'est endormi complètement épuisé de fatigue, et soudain, car sa vie est remplie de choses merveilleuses, on peut les croire ou ne pas les croire, je vous les raconte pour ce qu'elles valent, elles sont très belles en tous les cas, et le symbole, le signe est magnifique. Si on ne veut pas y croire, croyons au moins au contenu essentiel, à ce qui compte. Alors donc, soudain, un grand bruit dans la prison l'a réveillé. Et il a, lui est apparu un franciscain stigmatisé. Vous devinez évidemment que c'est Saint-François. Et ce franciscain l'invite à embrasser la vie religieuse des franciscains. Alors, après avoir obtenu sa liberté, après avoir payé très cher, une très forte rançon, car Jean de Capistran était riche, eh bien, il a vendu ses biens. Et puis, il a fait remettre à sa fiancée la dot qu'il avait reçue, et puis il a distribué aux pauvres tout le reste, de ce qu'il possédait. Il est allé demander son admission chez les franciscains observants, les plus stricts, quoi, près de Pérouse. Et le bienheureux Marc de Bergame, dont je vous parlerai un jour, pour éprouver sa vocation, lui a dit, j'aime bien cette réflexion de Marc de Bergame, les couvents ne sont pas le refuge des vagabonds ou de quiconque est fatigué de vivre dans le monde. Il faut bien d'autres preuves pour entrer dans un ordre religieux, je ne vous admettrai que quand vous aurez dit un adieu vraiment solennel et solide au monde et à toutes les vanités de ce monde. Alors, Jean de Capistran est retourné à Pérouse, parcouru les rues, et écoutez bien ça, c'est très étrange, il est monté à rebours sur un âne, couvert de haillons, coiffé d'une mitre de carton sur laquelle était inscrit en gros caractères, dit-on, tous les péchés de sa vie. Et là, la populace, voyant ce spectacle absolument invraisemblable, a considéré l'ancien gouverneur de Pérouse comme un insensé. La foule a câblé ses moqueries, ses injures. À la suite de cette épreuve, eh bien, Jean de Capistran, âgé d'environ 30 ans, a revêtu l'abbé franciscain au couvent de Pérouse en 1416. Et il fut placé sous la direction De quelqu'un d'assez illustre dans cette région, c'est Onufre de Seggiano. C'est un simple frère convert, un simple frère laid, comme on disait, L-A-I, hein, et non pas L-A-I-D, mais c'était un religieux d'une rare prudence et d'une grande, grande sainteté. Il a travaillé dès lors, notre Jean de Capistran se dépouillait du vieil homme, comme on dit en langage religieux. De tout ce qui traîne au fond de nous, là, il s'en est dépouillé pour revêtir ce qu'on appelle l'homme nouveau, hein, qui est dans Saint-Paul. Il s'est montré assidu à quoi? On revient toujours à ça, à l'oraison. L'oraison, hein, dont traite admirablement Paul Tillich dans ses ouvrages, vous en parlerez, j'espère, tout à l'heure. Alors, plein de zèle et de charité à l'égard des frères malades, Jean de Capistran a donné l'exemple d'une obéissance absolument aveugle dans la pratique des plus rigoureuses austérités. C'était la coutume à l'époque. Hein. Il admit bientôt à la profession, bien Jean de Capistran a redoublé de ferveur dans l'accomplissement des travaux les plus humbles, les plus simples. Il a étudié ensuite la théologie avec le fameux Jacques de la Marche. Et il a eu pour premier maître, mais pas n'importe qui, Saint Bernardin de Sienne, qui était franciscain aussi. J'ai hâte de vous en parler, Saint Bernardin de Sienne, grand saint. Alors, Bernardin de Sienne n'a pas tardé, évidemment, à se rendre compte des progrès surprenants de son élève, qui était un novice absolument remarquable. D'abord, c'était une vocation tardive. C'était un homme qui avait fait de l'administration, qui connaissait le droit, comme je vous ai dit, le droit de civil, puis le droit canonique. Alors, un jour, Bernardin de Sienne a dit, en parlant de Jean de Capistran, il dit, Jean de Capistran apprend en dormant ce que d'autres n'apprennent qu'en travaillant jour et nuit. Et de fait, Saint Jean de Capistran semblait avoir reçu, on dirait, une espèce de science infuse. Il s'est montré tout à coup un profond théologien. Puis il était déjà un savant canoniste, et il est devenu le plus grand missionnaire de son temps. Témoin des grands succès de Saint Bernardin de Sienne dans la prédication, Saint Bernardin de Sienne a converti des milliers, des milliers, des milliers de gens. Hein. Ben, notre Jean de Capistran a saisi le secret de Bernardin de Sienne. Qu'est-ce que c'était? De demeurer toujours humble, de se rendre compte que des talents prédicateurs, on ne se les donne pas à soi-même, pas plus que les talents de pianiste ou de n'importe quel talent. Dieu nous les donne, c'est Dieu qui nous a fait. Alors toujours homme de prière aussi, Jean de Capistran n'a pas cessé de pratiquer la pénitence, en comptant avant tout, et c'est ça qui est important, sur la grâce de Dieu, pour surmonter tous les obstacles. Et vers 1420, donc simplement 4 ans après avoir pris l'habit, bien, et Jean de Capistran n'était encore que diacre, il a fait ses premiers essais. Et là, Bernardin de Sienne l'a envoyé prêcher l'évangile dans la ville de Sienne, justement, puis dans quelques autres villes de la Toscane, où c'est très beau, très très beau. Et ordonné prêtre vers 1425, à 39 ans, pris du temps, bien Jean de Capistran a commencé vraiment sa vie apostolique. C'est absolument extraordinaire. Dès là, il n'a pour ainsi dire jamais pris de repos, il se reposait pas, il parcourait les provinces d'Italie, il a fait face à toutes sortes d'erreurs qui se répandaient de plus en plus. Il y avait des sectes plus ou moins mystiques, plus ou moins étranges qui se répandaient à cette époque. Hein. Alors il a lutté contre tout ça, il a ramené à Dieu par milliers des gens égarés, même qu'il convertissait des juifs soit au christianisme, ou soit que les juifs redevenaient de meilleurs juifs, plus sérieux, plus profonds. Il a converti des gens qui avaient quitté l'église, et puis toutes sortes de gens, enfin. Et tout ça par la sainteté de sa vie, et en même temps, il forçait au silence, au fond, ceux qui n'arrivaient pas à convertir. Parce que ces gens-là rentraient en eux-mêmes et se transformaient sans peut-être de redevenir catholiques. Alors dans toutes les provinces de l'Italie, les populations s'émouvaient profondément en l'entendant. Et les gens accouraient en foule pour l'entendre. Et on peut dire que à cette époque-là, au début du XVe siècle, on avait l'impression de vivre le tout début de l'Église. Et les papes Martin V, Eugène IV, Nicolas V et Calixte III, quatre papes de suite ont eu souvent recours à son dévouement. Et puis à sa capacité extraordinaire pour travailler aux grands intérêts de l'Église. Ils en ont fait d'ailleurs un nonce apostolique, un légat, et même un inquisiteur, mais un inquisiteur pas dans le sens cruel du terme inquisiteur, mais dans le sens respectueux des choses de l'époque. Il faut se remettre toujours à l'époque, essayer de comprendre le sens de la recherche de l'unité de la foi par des lois qui aujourd'hui seraient impossibles à appliquer et incompréhensibles aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait des sectes dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont la principale était les fraticelles, qui s'étaient multipliées en Italie. Ça répandait un poison absolument détestable. C'était des gens, des pseudo-mystiques. Il suffit d'écouter ces jours-ci à la radio les reportages ou à la télévision sur certaines personnes qui, à Montréal, vantent des produits et des méthodes de guérison ou de petites religions insensées. C'est absolument invraisemblable. Savez-vous qu'on peut porter des pendants d'oreilles pour maigrir et trouver le bonheur dans toutes sortes de choses absolument insensées? Ça se vend très cher à Montréal. Des œufs de bois à 1 200 $. C'est absolument invraisemblable. Et on peut plus lutter contre ces choses-là, il faut les laisser faire aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, bien, on luttait. Et pour mettre un terme à tous ces excès, mais le pape Martin V a donné de grands pouvoirs à Saint Jean de Capistran et au fameux Jacques de la Marche en 1426. Et l'erreur a pu être comprimée au début par l'éloquence, par le courage, par la charité de ces deux hommes. Mais les sectes se multipliaient de plus en plus. Alors le pape Eugène IV, lui qui a succédé à Martin V, en 1432, et puis Nicolas V en 1447, ont encouragé Jean de Capistran à essayer d'arrêter toutes ces choses-là. Mais il s'est fatigué énormément, il est tombé dans toutes sortes de périls, il est tombé dans des pièges, et c'était très dangereux pour sa vie, mais il a toujours été protégé. C'était une des époques les plus critiques de l'Église. L'Église était menacée de toutes sortes de divisions au Concile de Bâle, et les franciscains se trouvaient partout pour donner des preuves de leur zèle. Et vers 1439, un Saint Jean de Capistran était envoyé en Orient comme visiteur des couvents franciscains en Terre Sainte. Il a travaillé à la réunion des Arméniens. Il a ramené des représentants des Arméniens au concile qui avait été transféré à Florence. Et de retour en Occident, si on peut dire, bien Jean a pris aussitôt la plume pour combattre la promotion à Bâle de l'antipape Félix V. Alors envoyé par le pape Eugène IV comme légat dans la région de Milan et en Bourgogne, en France, il faisait tout ça à pied, imaginez, bien, il a encouragé à lutter le duc de Milan, Philippe Visconti. Puis, en allant en Bourgogne, il a été reçu comme avec énormément d'admiration. Et il est revenu finalement à Florence, où tous ses efforts ont été couronnés de succès. Et après le concile de Florence, Saint Jean de Capistran a été nommé nonce apostolique, ou en Sicile. Imaginez, il fallait qu'il descende jusque-là. Il s'est rendu dans cette île. Après s'être arrêté dans un couvent, le couvent du lac de Trasimène, où il a eu un dernier entretien avec Bernardin Sienne et Jacques de la Marche. Arrivé à Palerme, en Sicile, où résidait le roi Alphonse, là, il a refusé de descendre au palais, puis a préféré loger au couvent, très pauvrement, dans le couvent franciscain, où il a rempli les offices les plus humbles, faisant le ménage, servant les autres. Il se prenait jamais pour un autre. Et là, il y a appris la mort de son grand ami, Saint Bernardin Sienne.
Il s'est hâté de revenir à Aquila pour être témoin des miracles qui s'accomplissaient au tombeau de Saint Bernardin. Saint-Cargite, paraît-il, accomplit des miracles extraordinaires au moment du dessin de Bernardin. Puis là, il a pris part active à la préparation de la canonisation de Saint Bernardin. Entre-temps, on l'a chargé de prêcher en Italie, pas n'importe quoi, mais la croisade contre les Turcs, les musulmans qui attaquaient l'Occident. Ce qu'il a fait avec succès. On l'a envoyé comme légat en France, encore une fois, traiter les affaires du pape, du siège apostolique, comme on dit, auprès du roi Charles VII en France. Puis là, au pape Eugène IV, qui lui offrait de devenir évêque d'Aquila, il a demandé simplement la faveur de continuer à être qu'un simple franciscain et à prêcher. Le pape a été profondément touché par son humilité. Et le pape lui a permis. Il n'a pas insisté pour lui accorder un autre évêché, l'évêché de Rieti, auquel il songeait aussi. Alors, sous le pape Nicolas V, Jean a continué à remplir toutes sortes de charges importantes et difficiles. Ça ne l'a pas empêché de donner son attention à la réforme des franciscains. Et à la fin du XIVe siècle, l'ordre franciscain presque entier des frères mineurs s'était écarté de la règle franciscaine. Saint Bernardin avait travaillé à essayer de redonner aux franciscains leur âme, leurs espérances franciscaines véritables, leur genre de vie qui les faisait être capables de changer le monde. Là. Il a été secondé d'ailleurs, Saint Bernardin, par plusieurs franciscains. Parmi ceux-ci, le principal, c'était Saint Jean de Capistran. Et ils ont travaillé vraiment à la réforme des franciscains en Italie, en France, tantôt comme visiteurs, tantôt comme vicaire général. Et Saint Jean de Capistran a fondé, puis a même réformé, un grand nombre de monastères du second ordre. Qu'est-ce que c'est que le second ordre? Mais ce sont des clarisses, comme vous savez. Alors, il a mis en vigueur la première règle de Sainte-Claire, comme le faisait Sainte-Colette en France, qui, elle, était très sévère, Sainte-Colette. Elle n'y allait pas de même ordre. Il a propagé, Saint-Jean Capistran, le tiers-ordre en Italie, en Allemagne. Il a pris en main la défense des tertiaires. Puis le dernier théâtre de ses travaux, c'était l'Allemagne. Il a été chargé de fonder et d'étendre et de gouverner l'ordre franciscain. Là, l'empereur d'Allemagne, Frédéric III, et son frère Albert, qui était duc d'Autriche, deux pays de langue allemande, mais séparés, eh bien, ces deux hommes, Frédéric III donc et le duc d'Autriche Albert, connaissaient la renommée de Saint-Jean de Capistran. Ils ont demandé au pape Nicolas V de le leur envoyer pour combattre chez eux les Hussites, ces pré-protestants dont je vous ai déjà parlé. Je vous avais parlé de Jean Hus, pour lequel j'ai une assez grande admiration, même s'il a malheureusement séparé ces chrétiens-là de l'Église catholique. Et il le voulait pour rétablir la concorde aussi parmi les princes allemands. Et alors, bien, l'ambassade était conduite par un dénommé Piccolomini, qui était très réputé, et qui plus tard, d'ailleurs, est devenu pape sous le nom de Pie II. Ils ont eu plein de succès. Et puis, quand Saint-Jean de Capistran prêchait, bien, il prêchait tous les jours. Hein. Il traitait des questions les plus profondes, il ne prêchait pas sur n'importe quoi. Il plaisait aux simples comme aux savants. Et il avait, chaque jour, sans être à la radio, 20 à 30 000 auditeurs, c'est énorme, énorme. Il prêchait en latin, puis un interprète traduisait son discours, puisqu'il prêchait un peu partout. Et les 5 dernières années de sa vie ont été remplies par des travaux prodigieux en Allemagne. Et imaginez, c'est absolument fantastique, il a évangélisé la Carinthie, la Styrie, l'Autriche, la Bohême, la Moravie, la Silésie, la Bavière, la Thuringe, la Saxe, la Franconie, la Pologne. C'est absolument hallucinant. Il est allé en Transylvanie, en Moldavie, la Valachie aussi, et d'autres provinces encore. Et tous ces pas, on peut dire, ont été marqués par des prodiges, par d'innombrables guérisons, et on raconte qu'il a même ressuscité des morts. Bon. Partout, il a fondé des couvents franciscains. Cet apostolat fécond a été couronné par la victoire de Belgrade, qui fut le salut de l'Europe chrétienne, car de toutes les villes où il prêchait, Jean faisait porter sur la place publique tout ce qu'il y avait de malsain, et il en faisait des incendies. Mais après la prise de Constantinople, qui était le cœur de l'Église d'Orient, ce qu'on appelle l'Église orthodoxe aujourd'hui, la prise de Constantinople en 1453, date épouvantable dans l'histoire du christianisme, avait été conquis par Mahomet II. Quel nom, Mahomet II, qui faisait la guerre. Mais cette armée turque qu'il dirigeait est devenue une menace pour la Hongrie, et Jean a fait tous les efforts pour amener tous les princes à préparer une croisade, et le 2 février 1455, il a conquis tous les suffrages à la cause de la foi. Et l'exposition a été ajournée à cause de la mort du pape. Et Saint Jean qui pistrant dans toutes ses charges et ses prérogatives a voulu compter sur le zèle de tous les princes encore. Et là, l'entrée de Jean de Hongrie comme chef a été le triomphe. Et la parole de Saint Jean Capistrant a dissipé toutes les hésitations, là. Tout le monde est parti en croisade et ça s'est répandu dans le royaume que les Turcs avançaient avec une grande armée et une flotte pour assiéger Belgrade, qui était la forteresse située sur la frontière de la Hongrie. Et puis Jean de Capistrant s'est dépêché d'appeler les croisés sous les armes. Il a fait préparer quelques barques, et puis il est descendu, puis il a imposé la croix, et finalement, ils ont remporté la victoire. Mais ça a été vraiment des moments extrêmement terribles dans cette attaque des musulmans. Et alors, vaincus sur le fleuve, là, les musulmans redoublaient leurs efforts par la terre, et pendant 11 jours qui ont suivi la victoire navale, bien Jean est resté nuit et jour au milieu des croisés, et les Turcs musulmans se sont décidés à donner un assaut général, et finalement, malgré tout, ils ont gagné. Mais plus tard, les musulmans sont revenus, et ce fut terrible. Et Saint Jean de Capistran est mort paisiblement dans le Seigneur, âgé de 71 ans, le 23 octobre 1456. Et son corps a été enseveli dans l'église de la communauté, mais quand les musulmans ont conquis le couvent, ils ont tout détruit. Mais on croit que les restes ont été donnés à des basiliens orthodoxes. Dès 1515, la fête de Saint Jean de Capistran a été célébrée. Il a été appelé le champion du saint nom de Jésus, le chef des armées catholiques contre les musulmans. Il a été canonisé en 1690. Son office a été étendu à l'Église universelle par Léon XIII. Sa fête, qui avait été fixée au 28 mars, a été transférée, comme je vous ai dit, au 23 octobre. Nous sommes de retour à Rencontre spirituelle. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Et voici maintenant le bienheureux frère Arnoux des Frères des Écoles Chrétiennes. Dans un excellent document qui m'a été envoyé par un frère des Écoles Chrétiennes, je lis ce qui suit. Parmi les disciples du Christ, marquis du sceau de la sainteté, le frère Arnoux disait « C'est dans le cœur de notre Seigneur qu'il faut aller chercher sur la terre le Saint-Esprit ». Je rappelle cette parole très belle. C'est dans le cœur de Jésus, de notre Seigneur, qu'il faut aller chercher sur la terre le Saint-Esprit. On peut dire que la sainteté s'est formée chez le frère Arnoux dans une vie pauvre, simplement, dans le travail. Et c'était un homme d'origine très pauvre qui est devenu un homme remarquable grâce à la formation reçue chez les frères des écoles chrétiennes. C'est toujours ce que je trouve extraordinaire dans l'Église. C'est comme au sein de la JOC, pour les laïcs, dans ces congrégations, ces ordres religieux, dans les institutions d'enseignement de toutes sortes, fondées par les membres de l'Église, ces gens de milieux très très simples, très pauvres, qui finissent par recevoir une formation extraordinaire. Et Jules Reich était son vrai nom, Jules Reich, est né le 2 septembre. 1838, en Lorraine, c'est un Lorrain, dans une famille très pauvre. Son père était cependant un homme de foi. Et c'était un propagateur du rosaire. Il était cordonnier là-bas. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, bien, Jules Reich a fréquenté l'école primaire, puis pour aider sa famille, il s'est engagé comme valet de ferme. Et c'était un modèle de travail et de vie chrétienne sur cette ferme. Il étudiait à la paroisse le catéchisme. Puis il est devenu finalement le catéchiste des plus petits-enfants. Et là, à 21 ans, il a quitté son emploi. Les gens qui l'avaient employé se disaient, nous ne trouverons jamais vraiment un jeune homme comme lui pour le remplacer. Alors, les gens se demandaient s'il irait au séminaire ou dans un monastère. Et il profite d'une autre offre de travail, c'est la construction d'une église à Charleville. Et là, il conduit les chevaux du port qui est sur le fleuve, ou bien de la gare aussi, au chantier. Puis là, il charrie des pierres, du ciment et toutes sortes de matériaux pour construire l'église. Tout ce qu'il gagne, un bon salaire, va à sa famille. Sa journée donc consacrée au travail, à la prière, puis à la messe, à l'Eucharistie. Sa conduite est très remarquable, amène finalement son employeur à le loger dans la même chambre que son neveu, lequel a un tout autre caractère que Jules Reich, notre futur frère Arnoux, n'est-ce pas? Alors, pour pas le mécontenter, Jules Reich l'accompagne au bal et à d'autres distractions. Mais on peut dire que Dieu veille sur lui. Un jour, une femme, et c'est très important, ça, moi-même j'ai été marqué à 6 ans par une femme comme ça qui m'avait demandé « Pourquoi sommes-nous sur la terre ?» Et j'avais répondu la question du catéchisme, « Nous sommes sur la terre pour apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, à le servir, pour être heureux avec lui pendant l'éternité. » On parlait comme ça quand on avait 6 ans et qu'on répondait au catéchisme. Et elle m'avait dit « Vous avez tout compris. » Vous voyez les enfants dans ce sens-là. Et quand elle m'a dit « Vous avez tout compris », j'ai eu l'impression tout à coup de comprendre le sens de ces paroles extraordinaires, que nous sommes sur la terre pour apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, à le servir, pour être heureux avec lui pendant l'éternité. Alors Jules n'aimait pas tellement ces distractions, et la dame donc lui demande « Jules, à quoi songes-tu ?» Et Jules comprend, dès lors, il jeûne le vendredi, il dort sur le plancher. Et la dame lui avait dit, faut pas oublier ça, tu ferais mieux d'aller chez les frères aux réunions qu'ils ont organisées pour les ouvriers. Il trouve là un dérivatif, il devient le centre d'un petit groupe de jeunes auquel il fait le catéchisme. Un jour que ses chevaux boivent, à l'abreuvoir évidemment, bien, un frère l'aborde, un frère des écoles chrétiennes, il s'entretient cordialement avec lui. Et là, Jules Reich va le trouver le dimanche suivant. Et c'est alors que son entrée au noviciat est décidée. Il a tout simplement découvert quoi? La joie. La joie spirituelle. Et à l'âge de 24 ans, une vocation un peu tardive à l'époque, il entre au noviciat de Thionville et il s'y trouve à l'aise dans la prière. Il aime les conférences spirituelles. Il aime la vie fraternelle au milieu des novices. Il se distingue aussitôt par sa ferveur profonde, au point que le directeur lui confie déjà les postulants qui viennent d'arriver. Il faut dire qu'il est un peu plus vieux que les autres. Et là, il révèle l'habit religieux, cette belle soutane noire que portaient les frères des écoles chrétiennes avec ce grand rabat blanc, et cette soutane ample sans ceinture. Et puis, il s'appellera désormais le frère Arnoux. Et là, la personnalité de Saint Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur des frères des écoles chrétiennes, le fascine. Il est déjà un modèle, lui, le frère Arnoux, pour tout le monde. Et le directeur disait d'ailleurs aux novices, agissez comme le frère Arnoux. Quelle terrible chose de dire ça en public. C'est extrêmement gênant pour un novice de devenir un modèle pour les autres. Et une fois le noviciat terminé, on peut se demander ce qu'on ferait de lui. Il était fervent, mais instruit, il avait commencé à travailler très jeune. Alors on l'envoie à Reims, en Champagne, au pensionnat de la rue de Venise. Et là, le directeur lui confie quelques surveillances. Il lui recommande d'employer à l'étude là, les heures de temps libre. Et le frère Arnoux s'applique à ça avec méthode, avec ardeur aussi, puis avec foi. Et très vite, on le charge de la classe des petits, et ce sont des jeunes garçons très remuants, évidemment, s'aperçoivent que leur maître est pas très très expérimenté, et puis est peut-être un peu trop bon, alors ils en profitent. Les jeunes, c'est comme ça, hein. Alors, le pauvre frère Arnoux cherche à redresser le calme dans la classe, mais il s'aperçoit qu'il est trop tard. Mais avec le temps, les choses s'arrangent, hein. Sa patience, sa douceur, sa bonté, ça remplace l'expérience. Et peu à peu, ça va modifier l'attitude des élèves. Et lui, de son côté, ben, il étudie très fort pour donner de meilleurs cours. Et les élèves sont conquis. Alors, ils se prennent d'affection pour ce bon frère. Ils sont reconnaissants. Et puis, le frère Arnoux voit les fruits tout à coup de son courage. Et entre-temps, bien, il continue toujours à étudier, s'enthousiasme pour saint Thomas d'Aquin. Il se pénètre de la doctrine de saint Thomas. Et il établit des discussions théologiques avec certains frères plus instruits, là. Et là, les frères ont recours de plus en plus à lui. Et puis, il se moque un peu de lui en disant, voyons ce que pense notre théologien. Alors, il étudie les mathématiques aussi, il étudie les sciences, les supérieures. Finalement, il lui confie un cours d'agriculture. Pour la satisfaction de tous, il est un enseignant habile, compétent, et d'une autorité qui éblouit tout le monde. Alors là, ses plus grands soins sont consacrés aux leçons de religion, puis à la réflexion spirituelle de chaque jour. Il est pénétrant dans ses réflexions, puis il est convaincant, et en 1870, il a 31 ans, la France entre en guerre contre l'Allemagne, la fameuse guerre de 1870. Mais la France est vaincue en très peu de temps, et là, ce sont des journées terribles à Reims. Les frères aident et soignent les blessés des deux armées, françaises et allemandes, et là, le pensionnat est transformé en hôpital, et le frère Arnoux se distingue par sa charité, surtout à l'égard des mourants. Le maire de Reims rend un hommage public au dévouement des frères des écoles chrétiennes, et le frère Arnoux reçoit une décoration que personne ne verra plus, tellement il attache aucune importance à tout ça. Et en 1877, 7 ans plus tard, le frère Arnoux est nommé directeur du noviciat, le noviciat de Tillois. Mais cette nouvelle, il s'inquiète. Il est incapable, dit-il, de se conduire lui-même. Comment pourrait-il conduire les autres? Alors, il établit très vite avec les novices des rapports pleins de confiance, et les novices voient en lui un père, un vrai père. Ils devinent sa sainteté, ils éprouvent à son égard une profonde affection et lui ouvrent leur âme. Ils trouvent auprès de lui tout ce qu'il faut de compréhension et d'encouragement, et tous sont persuadés que le frère Arnoux est un homme de Dieu. Et lui, bien, il aime ses novices. Et c'est dans la joie qu'il les éduque. Et un soir, un postulant découragé veut s'en aller. Alors le frère Arnoux lui dit, vous attendrez bien demain pour partir, hein. Alors le lendemain matin, le postulant se présente au frère Arnoux et lui dit qu'il reste, il ne part plus. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le frère Arnoux a passé la nuit à prier pour lui. Alors que ce soit lors de ses conférences ou au cours de l'entretien personnel avec d'autres frères, ou avec des gens même, c'est un guide sûr qui s'appuie toujours sur la Bible, sur la Sainte Écriture. Il établit aussi sa réflexion sur les pères de l'Église qu'il a lu et étudié et aimé. Il établit aussi sur les lectures qu'il a fait des textes de Saint Jean-Baptiste de la Salle, le fondateur des frères des écoles chrétiennes dont je vous ai déjà parlé. Alors là, la réputation sainteté du frère Arnoux se répand et attire à lui un grand nombre de jeunes pleins d'enthousiasme. Et là, le noviciat de Tillois devient trop petit pour les accueillir, et les supérieurs décident de transférer le noviciat à Reims dans un plus grand bâtiment. Et là, le frère Arnoux, qui n'est pas encore vieux, est déjà usé par son dur travail. À cela, là, s'ajoute une pleurésie. Et là, le docteur lui prescrit un repos absolu. Il obéit. À peine rétabli, bien, il retourne à ses novices, mais pour peu de temps, car sa santé est compromise. Et là, les supérieurs le soulagent, la direction du noviciat. Il lui confie la direction de la maison, une tâche qu'il juge moins prenante. Hein. Et un frère raconte, le 22 octobre 1890, le frère Arnoux est entré dans la salle commune pendant que je préparais mes cours.
Son recueillement m'a impressionné. Mais son visage reflétait l'épuisement et une sérénité angélique. Le frère Arnaud s'est dirigé ensuite vers la chapelle et je l'ai vu près de s'écrouler. Le frère Arnoux mourra le lendemain, le 23 octobre, il y a 105 ans. Et, dès ce moment, sa réputation de sainteté s'est étendue de plus en plus et a été confirmée par de nombreuses faveurs qui ont été attribuées à son intercession. C'est le cardinal Pietro Palazzini qui disait « On reste émerveillé face à ce frère Arnoux, assoiffé, d'effacement et de silence. Et on ne peut s'empêcher de penser aux lumières de l'Esprit-Saint. C'était le guide d'une âme qui, sans jamais avoir étudié directement Saint-Benoît et ses 12 degrés d'humilité, on trouve ça dans la règle de Saint-Benoît, ce frère savait très bien par intuition surnaturelle que seule l'humilité attire la grâce de Dieu, sans laquelle nous ne pouvons rien. La vocation du frère Lassalien, c'est-à-dire les frères des écoles chrétiennes, quoi. La vocation du frère Lassalien est d'être un éducateur, un maître dans les sciences, monsieur, mais avant tout un maître de vie, ajoute le cardinal Pietro Palazzini. Pour cette raison, le frère des écoles chrétiennes renonce même au sacerdoce ministériel, dût-il en ressentir parfois le regret et la nostalgie. C'est une vocation et un charisme en soi, un charisme complet et précieux qui constitue, selon la pensée du fondateur, Saint Jean-Baptiste de la Salle, et de l'Église, un élément nécessaire, irremplaçable, pour la validité de l'exercice à plein temps de la vocation d'éducateur. Vous savez que le frère Arnoux a écrit des paroles remarquable, je vous en cite une, très belle. Ce n'est jamais seul. Nous pouvons en être sûrs, toutes les fois que nous faisons une bonne prière. Un être habite en nous. C'est lui qui crée les mots dans notre cœur. Il nous fait dire en nous-mêmes les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, il est l'esprit dans lequel nous prions dans tous les temps, par toute prière et supplication. Ce frère Arnoux était vraiment extraordinaire. Il avait une grande intelligence, une grande mémoire. Mais surtout, il s'est acharné au travail, dans des longues veillées nocturnes. Il avait le sens pédagogique. Tout cela était au service de tous ceux qui recouraient à lui. Le frère des écoles chrétiennes est ainsi fait. Il est toujours disponible. J'ai fait mes études chez les frères de Saint-Gabriel et je me souviens dans mon enfance, ils étaient toujours disponibles. Mon frère Arnoux a enseigné aux enfants d'abord, puis très vite aux plus grands, le français, l'allemand, qu'il a dû apprendre, la géométrie, l'algèbre, la physique, la chimie, la botanique, l'anatomie, l'agriculture. Et tu nourris quand on y pense. Que c'est beau la formation de ces êtres, très simples, qui sont formés finalement. Il était professeur d'une qualité rare, il a apporté le même soin à l'enseignement de la foi chrétienne. Il était nourri, je vous l'ai dit, de la Sainte Écriture, mais était aussi nourri de la liturgie. Il recourait aux ouvrages des grands théologiens. Il a mis à la portée de ses disciples la doctrine qu'il avait assimilée dans l'étude, la réflexion, la prière, car le temps de nuit qu'il ne consacrait pas à la préparation de ses cours, mais le frère Arnoux le passait à la chapelle, ne s'accordant que quelques heures de sommeil. Sa constitution physique était solide, hein, puisqu'elle lui venait du travail de la terre, mais ça lui permettait certains excès. Un miracle extraordinaire est survenu pour permettre sa béatification. Et ce miracle a été sanctionné par un professeur réputé qui a conclu, le 11 juin 1986, la maladie était chronique et inguérissable. Et c'est donc en pleine connaissance de cause et en toute conscience
que je puisse affirmer que la guérison du grave lympho-œdème au bras droit de Madame Marie Depin a été complète, rapide et définitive à la suite d'une neuvaine au serviteur de Dieu, le frère Arnoux. Ce fait extraordinaire, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, est attribué à une intervention miraculeuse. Le frère Arnoux porte un nom qui peut nous sembler curieux, A-R-N-O-U-L-D, mais il y a eu un grand saint qui était évêque de Metz, qui est mort en 640, qui s'appelait Saint Arnoux, et dont je vous parlerai le 18 juillet prochain. Il était, cet évêque, le père d'Ange Zizel et l'aïeul de Pépin de Herstal, et donc l'ancêtre d'une famille qui deviendra célèbre, les Carolingiens. Un évêque, oui, à cette époque. Et maintenant, je vous dis quelques mots de ce grand théologien protestant, Paul Tillich, né en 1886 et décédé en 1965, le 22 octobre. Il était le fils d'un pasteur conservateur, descendant d'une famille de la bonne société allemande, peut-on lire dans la revue Aujourd'hui Credo, cette revue protestante de l'Église unie, à laquelle je suis abonné depuis longtemps, dans son numéro d'octobre 1995. Il a été le premier professeur, Paul Tillich, le premier professeur non-juif destitué de son poste universitaire à Francfort par Hitler. Dès 1933, au tout début du pouvoir hitlérien. Par la suite, il a immigré aux États-Unis, où il a enseigné pendant plus de 18 ans à l'Union Seminary de New York, avant de s'installer finalement à l'université Harvard en 1955, où il enseignait 10 ans. Paul Tillich est mort, donc, je vous l'ai dit, le 22 octobre, c'était hier, l'anniversaire 1965, il y a donc 30 ans, il est décédé à Chicago. Et il n'était plus tout à fait allemand, pas complètement américain. Il disait vivre sur la frontière, sur les confins. La situation limite est pleine de tensions et de dynamiques. Ce n'est pas un rester debout, fixé sur place, mais plutôt un va-et-vient, un aller-retour, ayant pour but de créer une autre chose, au-delà des confins, quelque chose sur quoi on peut rester pour quelque temps sans se retrouver enfermé dans un cadre fixe. Il y a là quelque chose de très protestant. Il était d'ailleurs profondément protestant. Il a attaqué légèrement l'Église catholique, mais il a dit des choses tellement grandes dans ses ouvrages qu'on peut passer outre et les lui pardonner. Et c'était pas méchant. C'était sa perspective à lui. Il faut se mettre dans la perspective protestante et comprendre nos frères séparés. Il avait un tel amour de Dieu, un tel désir de Dieu, mais aussi une conception très semblable à celle de Maître Eckhart, ce grand dominicain dont j'espère vous parler un jour, qui prêchait il y a bien des siècles, à des dominicaines qui, à cette époque, prenaient des notes et nous ont laissé les textes de Maître Eckhart. Paul Tillich dit d'ailleurs qu'on ne peut pas se représenter Dieu, et ce qui en découle dans la naïveté du mythe pur ou dans des notions simplement philosophiques et raisonnables. Il part, Paul Tillich, du principe que nous ne pouvons parler du domaine supraterrestre qu'indirectement, c'est-à-dire qu'en symbole. Et c'est vrai que l'on peut parler de Dieu qu'en symbole. Qui peut dire une parole vraie de Dieu? Très difficile. Le Christ nous a révélé Dieu. Il nous a révélé l'amour de Dieu. Il était lui-même Dieu. Et ce qu'en dit d'ailleurs Paul Tillich est de très très grande valeur. Il dit, voici le sens de la venue de Jésus. Il est le Christ. Parce que c'est par lui que la nouvelle existence est devenue possible. C'est lui qui l'incarne. Il le fait tout à fait, complètement et sans aucune concession. Jésus-Christ vit sa vie. Le « ça » est écrit avec un « S » majuscule. Jésus-Christ vit sa vie comme tout le monde, donc assujetti aux tentations, à la misère, à la passion et à la mort. Il n'y a rien de surnaturel, de fantastique.
Mais c'est justement dans ces conditions naturelles de l'existence que se dévoile une existence de la non-annihilation dont la caractéristique est l'amour. Cet amour doit être réalisé dans le champ de ce monde. Voilà le mystère, le miracle de Jésus, ouvrant à l'humanité la possibilité d'une nouvelle existence. Elle n'est rendue possible que par l'historicité et l'humanité de Jésus, et ce n'est que par la participation du Christ à l'équivoque de notre existence limitée et humaine que cette participation peut se réaliser. C'est tellement grandiose la pensée de Paul Tillich que j'aurai le goût de vous en citer de grands passages. Il dit dans La dimension oubliée à tout observateur de la civilisation occidentale, il apparaît que quelque chose a changé dans notre comportement religieux. Cela se voit clairement en Amérique, où l'on parle d'un renouveau de la vie religieuse, ou plus exactement d'un regain d'intérêt pour ces questions. L'accroissement rapide des fidèles des différentes églises et le pullulement des sectes en sont les signes. Il en va de même de l'ouverture de nouveaux départements de sciences religieuses dans les collèges et de nouvelles facultés de théologie dans les universités. Vous savez qu'à l'Université de Montréal, c'est rempli de laïcs. Et Paul Tillich ajoute, le plus surprenant est l'énorme succès des prédicateurs qui, chaque dimanche, transportent les foules d'enthousiasme, les prédicateurs protestants aux États-Unis. Et il ajoute, tout cela est évident, mais comment l'expliquer? Et je vais essayer d'interpréter ces faits comme l'expression de la situation problématique dans laquelle se trouve l'homme occidental en cette seconde moitié du siècle, et je vais faire encore un pas de plus en affirmant que cette situation actuelle autorise un coup d'œil sur l'humaine condition dans ses constantes lunettes. Alors, là, il fait une réflexion très profonde sur le vide, et que c'est la dimension de la profondeur qu'il faut chercher. Et cette dimension de la profondeur, c'est bien autre chose qu'une petite religion purement verticale ou purement horizontale. Il réclame qu'elle soit les deux, mais en profondeur. En profondeur, c'est extrêmement important pour lui. Il dit, il y a des symptômes authentiques qui attestent une orientation générale de la religion vers la verticale. Il y aurait beaucoup à dire sur ces témoignages et leur signification pour une compréhension correcte de notre temps. Mais je dois ici me contenter d'indiquer le plus important. On comprend de nouveau le sens de la foi en tant qu'attitude religieuse fondamentale, aussi bien par son côté mystique que par son côté personnaliste. Il avait chez lui une grande fraternité pour le grand personnaliste français Emmanuel Mounier. Et pour lui, le côté mystique est extrêmement important et malheureusement grandement oublié pour de petits mysticismes naïfs. Et l'engagement social est extrêmement important mais risque de dérailler souvent. Et il rappelle qu'il faut faire très, 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 très attention. Dans un ouvrage comme L'Éternel maintenant, ce sont des ouvrages parus il y a longtemps, pas longtemps après sa mort, j'ignore s'ils ont été réédités, je l'espère, car il a publié aussi beaucoup d'autres choses, comme d'ailleurs dans le texte au début de son livre La dimension oubliée, Jean Onimus, qui parle de l'œuvre de Paul Tillich. Tillich, ça s'écrit T-I-2-L-I-C-H, qui est relativement ancienne, mais ses ouvrages les plus célèbres, dit-il, se ressentent de l'atmosphère existentialiste d'après-guerre où ils furent composés. Et grâce, n'est-ce pas, dans un certain sens, à l'existentialisme, qui insiste beaucoup sur le moment présent, bien on retrouve chez Paul Tillich cette grande pensée des saints, qu'on ne se sanctifie pas dans l'hier ou dans le demain, mais on se sanctifie dans le moment présent. C'est dans le moment présent que l'Éternel se rencontre. C'est dans le moment présent que l'Éternel envahit le temps.
Et c'est dans le moment présent que la rencontre se fait avec Dieu. C'est dans le moment présent qu'on se sanctifie. C'est dans leur moment présent qu'on prie. C'est dans leur moment présent qu'on agit pour aider quelqu'un. C'est dans le moment présent qu'on témoigne de sa foi. C'est pas dans l'hier et dans le demain. C'est tout de suite. Tout de suite, dans l'instant présent, c'est celui-là qui nous sanctifie, c'est celui-là qui nous permet de rencontrer Dieu, c'est celui-là qui fait qu'on se dépasse. Si vous voulez lire un ouvrage intéressant qui a été publié chez Fides, ou en 1974, on peut lire « La philosophie de la religion » de Paul Tillich, « Genèse et évolution ». C'est sur la période allemande, de 1919 à 1933. C'est écrit par un professeur de l'Université de Montréal, un éminent professeur qui est très respecté à l'Université de Montréal, Jean-Claude Petit, n'est-ce pas, qui est docteur en théologie de l'Université Albert Ludwig de Freiburg-en-Brisgau, de Fribourg-en-Brisgau, quoi, publié dans la collection Héritage et Projet chez Fides.